Armand Sylvestre, conte audacieux. Couveuse artificielle. Oui, monsieur le curé, c'est connu dans toute la contrée, et c'est arrivé, l'an passé encore, dans la famille de Thomas le Péteux. Quand une poule a eu un regard d'une couleuvre, c'est des serpents qu'on trouve dans les œufs de sa première couvée. Taisez-vous donc, vieille folle, et me donnez plutôt ma douillette. Je dis ce matin la messe chez l'excellente douairière de Monsinge, et vos maudits bavardages me feront arriver au château en retard. » Ce disant, l'abbé Bisminet prit brusquement congé de sa gouvernante, Élisa Leloup, qui le suivit du regard avec un léger haussement d'épaule. Car c'était une personne violemment crédule et qui n'entendait pas qu'on la heurtât dans aucune de ses croyances. Le phénomène dont elle avait parlé ne lui semblait pas plus incroyable que bon nombre de miracles réputés authentiques par son maître. En quoi elle avait peut-être absolument raison. Transportons-nous maintenant, avec le digne ecclésiastique, chez la douairière qui l'attendait impatiemment, dans un décor fait comme pour les proverbes d'Octave Feuillet. Un grand salon, avec tous les meubles en tapisserie, et des pelotons de laine sur presque tous les meubles. De larges fenêtres ouvertes sur un immense jardin, où mouraient les dernières roses trémières, entre les toiles argentées tendues par les premières araignées automnales, au corsage gris, pailleté de noir. La sérénité d'un ancien domaine où s'achevait la vieillesse d'une femme respectée et bienfaisante, maniaque et magnanime. Il eût fallu une musique de clavecin à cette pièce antique et au mobilier suranné. Peut-être les aïeux en costume bleu et rose tendre seraient-ils lentement descendus de leur cadre de bois sculpté pour esquisser un menuet posthume. Tout disait là la tradition superstitieuse et douce, le culte des morts, qui en avait fait cependant de belles de leurs vivants. Car la dynastie des Lecu de Monsinge, tel était le vrai nom de la famille aux croisades, avait été renommée dans toute la province pour la paillardise des mâles et pour la légèreté des femelles, bonne souche de bons vivants adorants, ceci le vin et celle-là l'amour, ce qui devait en faire une compagnie agréable. De ce ferme de joyeuseté et de galanterie, la douairière n'avait rien gardé dans ses veines virginales. Elle avait vécu selon le Seigneur, pudique et charitable, et sa vieille âme retrouverait des ailes de colombe, blanches comme la première neige, pour s'abattre au pied du Très-Haut. Un tour à la chapelle et ce fut tout. L'abbé Bisminet vous troussait une messe en moins de 20 minutes, sans en omettre le moindre orémus. Virgile lui-même n'eut rien compris à son latin. Une partie de trictrac fit attendre le déjeuner auquel on retena le curé. Très galamment, celui-ci la perdit, ce qui rendit la douairière d'excellente humeur. Je vous fais grâce des plaisanteries grossières qu'accumulent les gens mal élevés sur la gourmandise des prêtres. Je me méfie, pour ma part, de ceux qui mangent sans convoitise et sans plaisir. C'est qu'ils trouvent ailleurs la compensation interdite, à moins que l'appétit formidable de quelques-uns ne soit qu'un besoin immense de réparation. Mon Dieu, comme tout est jugement téméraire en ce cas. Ce qui est certain, c'est que Rabelais, le seul à qui j'aurais consenti de me confesser, adorait les côtes bio, et ne m'en semble que plus divinement aimable pour cela. On fit, après le dessert et le café, un tour dans le parc. Avec de charmantes coquetteries de vieille, la douairière fit au prêtre les honneurs de sa grande allée de dahlia, dont elle avait elle-même choisi les variétés, de façon à obtenir un merveilleux ragoût de couleurs. Car ces hautes fleurs sans âme, j'entends dire sans parfum, tuyautées comme des collerettes de mignon, ont le teint des violets tendres, des pourpres intenses, des jaunes éclatants. L'allée descendait doucement jusqu'à la porte du potager, où d'admirables tomates mettaient de larges gouttes de sang clair. Une autre petite porte à droite, et sous un berceau de clématites sauvages, s'effilochant en houppette grise, on entrait dans le poulailler, qui était encore une des fiertés de la châtelaine. Toujours suivie du curieux abbé, la grande dame s'en fut dénichée elle-même des œufs. Dans le nombre s'en trouvaient de tout petits, presque roses. De mignons œufs qu'on aurait cassés avec remords, et beaucoup de lard dans une omelette. Le saint homme se fit montrer les oiseaux d'où sortaient ces merveilles. De charmantes petites poules huppées, à peine plus grosses que de grosses perdrix, et qu'on eût mises en broche qu'avec des larmes dans les yeux, et un joli bouquet de serpolets et de thym. Ces immortels pour les funérailles des petites bêtes comestibles. L'abbé s'extasia. Il tomba, comme dit Panurge, en contemplation véhémente. Il témoigna d'un tel enthousiasme que la douairière lui proposa d'emporter ses jolis œufs, qui étaient au nombre de 8. Ne pourrait-il les faire couver au presbytère? Justement, la vieille poule qui constituait tout le poulailler de notre Bisminet avait témoigné des velléités de maternité. Élisa ne pouvait la faire envoler de son panier. L'abbé accepta donc avec reconnaissance, et 2 heures après, vous l'auriez pu contempler sur la route, marchant dans une poussière dorée, son bréviaire sous un bras, et l'autre bras tendu par le poids d'un mouchoir à carreaux, où était soigneusement déposé, dans de l'herbe fraîche, le fragile espoir de la couver. Il appela Élisa en rentrant, et tous les deux insinuèrent les 8 grosses perles, sous le ventre légèrement déplumé de la vieille poule, qui poussa des gloussements joyeux. Ce fut, tous les jours suivants, une grande distraction pour le presbytère. L'abbé ne pensait pas à autre chose, même pendant les offices, et se reprochait avec de grands actes de contrition cet état vraiment pusillanime de son esprit. Élisa confectionnait par avance de petits paletots en flanelle pour les poussins à venir. Dame, on en était déjà à l'arrière-saison, et les nouveau-nés ont besoin de soins plus grands sous le déclin frileux de l'année. Ah, les bonnes gens qui confièrent des messes au curé pour le repos de l'âme de leurs proches défunts n'en durent pas obtenir, pour ceci, un bien grand soulagement. C'est encore en pensant à ces poulets que le pauvre homme les recommandait à la miséricorde divine. Par exemple, en voilà une bonne. Plus que quelques heures, et la vieille poule défaillante, victime de son abnégation de couveuse, meurt au champ d'honneur, j'entends, sur la coquille de ses enfants d'adoption, avant que ceux-ci aient vu la lumière. Vainement on cherche avec des cordiaux à ranimer la sublime bête. Elle expire, et sa petite langue desséchée pend de son bec entrouvert, tandis qu'une taie blanche se forme sur ses yeux éteints. Une convulsion d'aile, et c'est fini. Un hérissement douloureux de plumes mouillées par l'agonie, et tout est dit. Peut-on imaginer une mésaventure pareille, un semblable naufrage en plein port? Il n'y a pas à dire. Si une température suffisamment élevée, doucement entretenue, vivante, pour ainsi parler, ne continue l'œuvre interrompue par la mort, la couvée tout entière est fichue. Les grands cataclysmes enfantent les grands dévouements. Élisa se sent pour ses futurs orphelins des entrailles de mère. Sans dire un mot, elle trousse ses jupes et s'accroupit sur le nid de paille, décidée à demeurer dans cette position jusqu'à parfaite éclosion de la volatile postérité. Résolution héroïque, car bientôt, sur les jarrets ployés de la vaillante servante, tire rudement le poids de son postérieur mal équilibré par le poids insuffisant de sa tête. Car c'est en vain que la femme voudrait charger également les 2 plateaux d'une balance avec les extrémités inégales de sa personne. Contre la lassitude, Élisa fait bonne figure. Vous pensez celle dont je veux parler. Mais voici qu'une indiscrétion de la nature vient soudainement à son supplice. Les entrailles des mères ont, comme les autres, leur fantaisie. L'imprudente couveuse avait mangé beaucoup de raisins à son déjeuner. Ce chasse-là était en pleine insurrection. Rester un instant de plus constitua le pire des dangers pour les œufs, au-dessus desquels grondait déjà l'orage. Il n'était que temps de fuir pour ne les pas faire tourner. Mais abandonner au froid cette progéniture au seuil périlleux de la vie, Élisa appela au secours. L'abbé vint en toute hâte. Lui aussi fut inspiré par le caractère dramatique et désespéré des événements. Soulevant à son tour sa soutane, il prit la place tiède de la servante et ne bougea plus, comme si un photographe lui avait parlé. Mais soudain il entendit, sous lui, un petit bruit sec, dont dans son émoi il ne s'expliqua pas la naturelle origine. Quelques brins aigus de paille se détendirent-ils en même temps et le vinrent-ils piquer à l'endroit qu'il avait mis à nu? Toujours est-il qu'il eut comme l'impression de petits coups de bec, et ne douta pas que ce fût un des petits poussins venus au monde qui lui souhaitait ainsi le bonjour. Très douillet de sa nature, le brave homme appela vivement Elisa, qui fort heureusement avait achevé sa ponte de septembrale purée. Un petit poulet est éclos, lui fit-il, et me laboure odieusement en dessous. Passe derrière moi, et plonge doucement la main en dessous dans le nid, pour l'enlever aussitôt. Qu'il ne me casse tous les autres œufs et me laisse le derrière tranquille. Sans hésiter, la courageuse Elisa obéit. Mais bien vite, après l'avoir vigoureusement enfoui, elle retira la main en poussant un cri. Levez-vous, levez-vous, monsieur l'abbé, disait-elle. La poule avait vu la couleuvre, comme chez Thomas le Péteux.